Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune ce samedi. Bonsoir Geoffroy, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et Gérard Leclerc qui joue un peu les prolongations parce que vous en avez l'habitude, que ce soit le week-end ou en semaine. La circulation nous joue des tours et Julien Drey a un peu de retard. Et gentiment, vous gardez la place, vous chauffez la place et vous allez faire les premiers thèmes avec nous. Et je vous remercie, Gérard, d'être présent pour le début de cette dispute. On fait le point sur l'information et on va parler un peu de la gauche et des soucis qui touchent deux personnalités, à savoir Adrien Quatennens et Julien Bayou.
Turc menace de nouveau de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN. Recep Tayyip Erdogan accuse les deux pays de protéger des combattants kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan et des unités de protection du peuple, deux organisations considérées comme terroristes par Ankara. À ce jour, 28 États membres de l'OTAN ont ratifié l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Seule la Hongrie et la Turquie, donc, doivent encore donner leur accord final au Parlement. Le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne a cessé de fuir sous la mer Baltique. Quatre fuites ont touché cette semaine les gazoducs Nord Stream en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie. Un incident généralement considéré comme un acte de sabotage et dans ce contexte, trois pays européens vont aider la Norvège à sécuriser son secteur pétro-gazier. Il s'agit de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Le gouvernement annonce des moyens et des effectifs supplémentaires pour lutter contre la flambée de violence et le trafic de drogue en Guyane. 30 homicides depuis le début de l'année, un taux de meurtre près de 10 fois supérieur à celui de la métropole et le trafic de cocaïne qui explose. Près de 200 policiers et gendarmes supplémentaires vont être déployés et les effectifs des douanes vont être doublés. Enfin, en Formule 1, sous la pluie de Singapour, Charles Leclerc domine la dernière séance d'essai libre. Le pilote de l'écurie Ferrari partira demain en pole position devant Sergio Perez. Son coéquipier chez Red Bull et leader du classement Max Verstappen partira lui en 8e position, juste derrière Pierre Gasly, 7e des qualifications et premier français.
Voilà pour le point sur l'information, Gérard Leclerc et Geoffroy Lejeune pour le début de Ça se dispute. On devait commencer par cet élu socialiste adjoint au maire des Mureaux qui a décidé de quitter la ville et de démissionner de son poste parce qu'il est victime de menaces et d'injures. Mais ça vient de tomber. Adrien Quatennens, qui a donc été auditionné, on l'a appris ce samedi, Adrien Quatennens, entendu lundi au commissariat de Lille dans le cadre de l'enquête pour violence conjugale le visant. Son épouse a déposé, c'est ça qu'on apprend aussi cet après-midi, une seconde main courante, annonce l'avocate du député LFI. Alors elle précise cette nouvelle main courante, selon elle, se borne à évoquer des SMS transmis par mon client, voilà ce qu'elle dit, dans le cadre de leur séparation, et ne contiennent aucun message à caractère malveillant ou menaçant. Voilà la déclaration. Je rappelle très rapidement que le parquet a indiqué le 19 septembre avoir ouvert une enquête après la première main courante déposée contre le député par son épouse dans le cadre de sa politique pénale volontariste pour le traitement des violences conjugale. Et puis la semaine d'avant, le 13 septembre, Adrien Quatennens avait dit avoir appris par voie d'avocat que le parquet s'était saisi des faits. Il a admis lui avoir donné une gifle il y a un an dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, affirmant avoir profondément regretté ce geste. Premier tour de table, cette affaire, Adrien Quatennens, on n'en voit pas le bout, Geoffroy Lejeune.
En fait, moi, ce qui me désole un peu dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que c'est une affaire privée qui aurait dû le rester en réalité. Et en gros, pour résumer, c'est un divorce qui se passe très mal. C'est-à-dire que il y a cette confrontation physique, cette gifle, il y a assez longtemps en réalité, enfin, il y a plus d'un an. Et dans le cadre d'une séparation que manifestement lui vit très mal, son épouse va déposer cette main courante, j'imagine, pour garder quelques arguments de côté pour le cas où la discussion avec les avocats se passerait mal. Donc on comprend ça en précisant à l'époque, il faut quand même le rappeler, qu'elle demande à ce que ça ne soit pas public et donc à ce que ça ne sorte pas dans la presse et que ça ne soit pas, que ça ne soit pas diffusé. Ça l'est malheureusement pour les deux, pour eux deux. Et aujourd'hui, dans le, une fois que cette affaire est devenue une affaire politique, puisqu'en réalité elle est devenue politique et qu'elle a été utilisée à des fins politiques, cette deuxième main courante qui évoque du coup des SMS, enfin du harcèlement par SMS, comme je pense ça doit se passer dans la plupart des ruptures en réalité, je n'imagine pas une relation très, très apaisée entre deux époux qui se séparent, ça devient une affaire politique. En réalité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de politique à dire sur cette opération, à part que, en fait, ce couple est malheureusement victime du fait que son affaire est tombée dans le domaine public et que maintenant, on se sent obligé de le commenter.
Oui, mais c'est, malheureusement, ça fait trois semaines qu'on le dit, c'est effectivement ce tribunal médiatique qui s'est mis en branle contre Adrien Quatennens, mais ce tribunal médiatique, la France Insoumise et certains de la France Insoumise, pas tous, l'ont alimenté, Gérard Leclerc.
C'est absolument le problème, oui. Il y a deux problèmes. D'une part, c'est pas seulement un divorce qui se passe mal. S'il y a une gifle, ça veut dire qu'il y a une violence, et ça, c'est quand même beaucoup plus grave. La deuxième chose, là, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est à la justice de faire son travail, de dire effectivement qu'est-ce qui se passe, etc. Le souci, c'est qu'hélas, les politiques, et en particulier la France Insoumise, justement, n'a pas laissé, est intervenue, est intervenue par les premiers tweets de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel il parlait de malveillance policière, de voyeurisme des médias, dans lequel il affirmait son soutien, enfin son affection pour le courage, la dignité de Quatennens. C'était quand même très imprudent. Et c'était d'autant plus imprudent que dans le passé, on a souvent vu les gens de les insoumis, sans attendre justement que la justice fasse son travail, demander la démission de Monsieur Darmanin, demander la démission de Monsieur Abad, demander etc. etc. Et là, ils se sont pas posé la question de savoir s'il fallait ou non laisser la justice. C'est là le problème. C'est là le problème. Dans toutes ces affaires, c'est à la justice d'intervenir. Bon, quand il y a un fait précis comme une violence sur les femmes, bien évidemment, on peut réagir. Mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce qui me pose le problème, voilà, c'est qu'ils ont demandé la démission de tous ces hommes politiques, mais que n'ont pas envisagé la démission d'Adrien Quatennens. Donc là, il y a un petit souci.
Et dans un contexte, on le rappelle, où Adrien Quatennens a avoué les faits. C'est lui qui dit « j'ai giflé ma femme ». C'est lui qui dit, effectivement, dans ce contexte de divorce et de tension, il y a eu peut-être des messages et une forme de harcèlement. Avançons un tout petit peu, parce que dans le même temps, il y a cette affaire Bayou qui est en train de déchirer l'Europe et que le gilet les Verts. Les Verts qui réaffirment leur confiance dans la cellule interne au lendemain d'un article choc de Libération. La direction a réaffirmé ce samedi sa confiance dans cette cellule interne du parti chargée des violences faites aux femmes après les accusations de violences psychologiques visant son ex-secrétaire national Julien Bayou. C'est-à-dire que vous avez chez Europe Écologie Les Verts, pour vulgariser, et certains diront en fait ils se font justice avant que la justice ne prenne en charge ce dossier-là. Et on voit que ces deux affaires, qui sont différentes évidemment dans la forme, dans le fond restent à peu près la même. Les mêmes, Geoffroy Lejeune.
Vous avez absolument raison, c'est malheureusement le problème. Vous avez raison de pointer l'hypocrisie de la France Insoumise dans le cas d'Adrien Quatennens. Moi, je suis d'accord avec ce que Gérard Leclerc vient de dire. Maintenant, ce qu'on a appris en réalité, avec il y a un vrai continuum entre l'affaire Quatennens et l'affaire Bayou, alors que les faits ne sont pas les mêmes. Mais il y a quelque chose de commun à tirer comme conclusion, c'est qu'en réalité, ils ont décidé de créer des structures pour gérer ces affaires entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils ont pris conscience du fait que l'utilisation d'une affaire de mœurs ou d'une affaire de violence dans un couple ou d'une affaire de harcèlement, etc., pouvait avoir des conséquences politiques, ils ont décidé de créer des sous-tribunaux, en fait, ou des contre-tribunaux qui vont faire la justice avant même que la justice puisse se prononcer. Donc moi, je suis d'accord avec vous, Gérard Leclerc. Évidemment qu'un citoyen normal se dit il y a des tribunaux pour ça, et si une femme se sent menacée, violentée, violée, harcelée, etc., elle a il y a un endroit pour qu'elle aille s'en plaindre, et il y a une justice qui doit passer. Le problème, c'est que la France Insoumise, comme les écologistes, se sont dotés de cette fameuse structure qui s'appelle la Commission contre les violences sexuelles, dans laquelle ils viennent de réaffirmer leur soutien. En vérité, le vrai problème, c'est que, on devrait aujourd'hui tous s'ériger devant la création de ces commissions pour dire qu'elles ne devraient pas exister en réalité. Vous avez dans un cas Tahabouaf qui est convoqué. Donc là, c'est la France Insoumise, il est candidat aux législatives et on lui explique qu'il y a des plaintes qui vont sortir contre lui. Il n'est pas au courant. D'ailleurs, à l'heure où on parle, il ne sait toujours pas. C'était au mois de juin. Il ne sait toujours pas de quoi il est accusé. Et on lui dit, tu devrais retirer ta candidature aux législatives parce que ces plaintes vont sortir dans les médias, etc. Et ça pourra porter préjudice à ta candidature. Donc lui, qui n'a pas envie de se prendre une volée de bois vert et un harcèlement médiatique ou sur les réseaux sociaux, etc., ce que je peux comprendre, décide de ne pas être candidat, mais il ne sait toujours pas de quoi il est accusé. Et chez les écologistes, c'est exactement la même chose. Julien Bayou, son avocate d'ailleurs, a fait une intervention très remarquée cette semaine, mais elle avait raison en tout point. Il est aujourd'hui obligé de se défendre contre des faits dont il n'a pas connaissance, il ne sait pas de quoi il est accusé, et la version qu'il donne de sa rupture compliquée, conflictuelle avec son ancienne compagne, plaide plutôt pour lui. C'est-à-dire que c'est une rupture qui se passe très mal, mais il n'y a rien d'ajudiciaire dans l'opération. Ces gens ont décidé de créer des tribunaux, des contre-tribunaux pour justement échapper à la justice et pour pouvoir se servir quand ils en ont besoin de ce type d'affaires pour faire de la politique. Tahabouaf, on lui explique au moment où il faut qu'il retire sa candidature, on lui dit tu n'as qu'à dire que tu as été victime de racisme, ça fera pleurer dans les chaumières. Et c'est ce qu'il fait. Allez. En plus.
Oui, c'est sur l'affaire Bayou.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est même encore plus grave. Si l'on en croit Libération, qui à première vue, c'est pas contesté, il y avait un collectif de femmes, donc du groupe des écologistes, dont l'une est d'ailleurs dans la fameuse cellule en plus, qui depuis 3 ans surveillait,
enquêtait pendant
surveillait Bayou, etc. Pour le coincer.
Sur ses relations avec les femmes.
Là, on est carrément tombé dans une espèce de macartisme, de truc qui est quand même complètement fou. En plus, c'est Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que c'est même pas la commission qui s'étant auto-saisie, décide. C'est Sandrine Rousseau qui révèle à la télévision, donc, et qui parle de quelque chose quand même qui est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vague, de violence psychologique à l'occasion d'une séparation. Autant dans Quatennens, une gifle, c'est une gifle. Là, c'est une violence. Autant la violence psychologique, ça peut exister. Mais encore faudrait-il quand même qu'on en sache un peu plus. Et donc, sans même attendre, sans même que Julien Bayou ait pu s'expliquer devant la commission, on lui a demandé précisément qu'est-ce que vous me reprochez.
Il l'a demandé.
On lui a refusé.
Bien sûr.
C'est Sandrine Rousseau qui, à la télévision, le met publiquement en accusation et on le fait démissionner de...
Je rappelle les propos d'Elisabeth Badinter.
Là, c'est de l'inquisition.
J'ai été choqué de son intervention. Elle parle de Sandrine Rousseau sur cet avou quand elle s'est permis d'évoquer un problème entre M. Bayou et sa compagne et d'appeler à son exclusion. Où sommes-nous pour mépriser la justice, Elisabeth Badinter, hein. On ne peut pas à ce point mépriser les principes démocratiques. Julien Drey, asseyez-vous à côté de... Non mais Gérard, restez au moins pour les 10 prochaines minutes.
Je ne suis pas responsable.
Écoutez, il y a une cellule interne pour savoir comment se fait-il que vous êtes en retard, Julien Drey, mais s'il n'y a pas de problème, bienvenue sur ce plateau. On est en train de parler de l'affaire Bayou aujourd'hui, puisque Europe Écologie Les Verts, malgré les révélations de Libération, affirme toute sa confiance dans cette cellule interne qui fait justice avant la justice. C'est-à-dire qu'ils enquêtent, ils essayent de comprendre quand il y a des faits de violence sur les femmes, violence sexuelle, violence morale. Et donc il y a cette confiance qui est réaffirmée. C'est une erreur ou pas ?
Si vous voulez, c'est un monde qui commence à devenir assez incompréhensible, le monde des Verts. Parce que visiblement, ils ont une tendance à l'autoflagellation, la culpabilité, à la repentance qui est devenue systématique. Alors, on n'arrive plus à savoir d'ailleurs quelle est la vérité, puisque on a une avocate qui a fait une charge en règle contre la cellule interne avec des arguments qui ont été des arguments d'autorité. Visiblement, on est à la veille d'un congrès des Verts, donc chacun est en train de ménager la base, donc on revient en arrière. Donc il y a un mélange entre le droit, les batailles politiques internes. Et je pense que tout ça n'est pas très sérieux et montre l'immaturité de ce mouvement.
Et quand vous avez des responsables politiques qui viennent critiquer la prise de position d'Elisabeth Badinter, qui a passé sa vie pour lutter contre les inégalités femmes-hommes, qui est une féministe dans l'âme, et qui dit aujourd'hui ces méthodes-là ne sont pas normales, ne sont pas saines, et vous avez Sandrine Rousseau, Mathilde Panot et même Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre sous François Hollande, qui viennent critiquer les positions de Elisabeth Badinter.
C'est même pas qu'elle la critique, elle a subi des insultes en réalité. Elle a été insultée toute la semaine parce que notre débat public compte de nouvelles féministes. C'est intéressant, vous avez raison de le souligner. En réalité, Elisabeth Badinter, c'est probablement peut-être la figure du féminisme en France depuis 10, 20, 30 ans, que personne ne conteste. Elle est de gauche, pas moi, mais pour autant, je lui reconnais cette qualité, cette autorité, etc. Et cette semaine, et en réalité c'est arrivé depuis quelques années, puisque déjà ses positions sur notamment la PMA ou la GPA lui avaient valu des petites ruptures avec le mouvement féministe, mais cette semaine on a vu la haine que ces gens, que ces femmes lui portaient. Donc il faut en tirer des conclusions. Premièrement, il y a un néo-féminisme, puisqu'il y a une rupture dans le féminisme, il y a un néo-féminisme, mmh. et ce néo-féminisme, c'est celui qu'on a vu en œuvre ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment dans l'affaire Bayou, qui est inquisiteur, qui se fiche absolument de la notion de justice, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas la justice, mais la vengeance. Donc, je me permets de rappeler cette phrase de Clémentine Autain qui dit à Tahabouaf, cette affaire était très intéressante aussi, Dieu sait que je ne partage pas leurs idées, mais Tahabouaf a été une victime de ce système. Elle lui dit, au moment où lui s'interroge, lui demande, mais pourquoi est-ce que je devrais démissionner alors que je n'ai rien fait, je ne sais pas de quoi je suis accusé, etc. Elle lui dit, ça fait 1000 ans que les femmes subissent, donc tu payes pour ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment ce qu'elle pense. Elle pense qu'il faut que les hommes rendent gorge parce que les femmes ont souffert pendant trop longtemps.
On fait vraiment un petit pas de côté, mais il y a 3 jours, Mathilde Panot, qui est donc la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, voilà ce qu'elle disait après les propos d'Elisabeth Badinter, qui n'est pas n'importe qui quand même, Elisabeth Badinter. Dire autant de bêtises en un temps si réduit relève du talent. Quel regard vous portez sur ces déclarations et ces attaques ?
Bien évidemment, je trouve ça effrayant. Sur ce néo-féminisme, d'une part, il y a un côté inquisition que je trouve absolument effrayant, qui n'est pas du tout dans la tradition de ce que devrait être la gauche, et en tout cas cette gauche écologiste qui au départ était quand même plutôt libertaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a malheureusement chez un certain nombre d'entre elles aussi quelque chose, je vais peut-être choquer certaines, mais j'en suis convaincu, une espèce de haine des hommes qui est choquant. Quand vous en entendez certaines qui disent que, je crois que c'est, je vais pas prononcer parce que je veux pas me tromper, et qui dit qu'un tiers des hommes sont des violeurs, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça sort d'où? Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a été prononcé, ça a été dit, vous le retrouverez facilement. Je crois savoir qui c'est, mais je veux pas me tromper. Ouais. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument insupportable. Voilà. On a tout à fait le droit d'être d'ailleurs pro-lesbien, tout ce que vous voulez. Mais on n'emploie pas des arguments comme ça et on n'entre pas dans ce côté inquisition, je trouve, qu'on en a vu avec la
famille. Avançons et on va parler justement de cette Julien Drey.
Les attaques contre Elisabeth Badinter étaient désagréables et fausses, mais c'est vrai que dans l'expression, pour une fois, Elisabeth Badinter a dit 2 ou 3 choses qui sont discutables, notamment le fait qu'elle
dans la prescription,
le fait qu'elle ait reproché à un certain nombre de femmes de ne pas avoir été portée plainte en disant si vous êtes violée, vous allez porter plainte. Elle n'a pas intégré les situations qui sont parfois des situations extrêmement pénibles à vivre et qui ne conduisent pas tout de suite à, je dirais, porter plainte. Mais elle ne méritait pas les caractéristiques et les mots d'oiseau qu'elle a prises par la suite.
Avançons, je le disais, un élu socialiste, et ça c'est très très intéressant, vous allez l'entendre en longueur, adjoint au maire des Mureaux dans les Yvelines, ville de 80 000 habitants, a annoncé mercredi sa démission du conseil municipal. En fait, il a été victime de nombreuses insultes et menaces. La cause, il est blanc. Il est homosexuel. Et il a 38 ans, je le rappelle, et ça fait plus de 10 ans qu'il vit au Mureaux, mais la situation a basculé ces 2 dernières années. Le racisme anti-blanc, l'homophobie, la transformation sociale de sa ville, voilà ce qu'il dénonce. Et ce qui est fascinant, c'est que dans sa déclaration, il s'excuserait presque de tenir ses propos dans le conseil, durant le conseil municipal. On l'écoute.
Je suis arrivé au Mureaux, voici désormais 14 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville, que j'ai trouvé être un bel exemple de vivre ensemble. Certes, ce vivre ensemble ne se déroule pas toujours dans une harmonie parfaite, mais il me semble que pendant l'essentiel des années que j'ai pu vivre ici, la ville connaissait un équilibre et une certaine cohésion sociale. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'y installer et d'y fonder une famille. Ici, tout le monde, au-delà des origines de chacun, se parle, vit ensemble, partage et échange. Ou plutôt, devrais-je dire, se parler, vivre ensemble, partager ou échanger. Car cette intervention est d'abord celle d'un citoyen inquiet du délitement du lien social dans notre ville. Une ville qui a changé récemment. Depuis 2 ans, en me référant à mon expérience personnelle, j'ai subi 11 agressions où moi-même ou ma famille nous sommes sentis menacés jusque dans notre intégrité physique, là où pendant 12 ans, je n'ai jamais connu d'épisode de cette nature. Ces derniers épisodes, je ne vous le cache pas, ont été violents et ont profondément remis en cause le lien que j'avais avec la commune et avec ses habitants. Je me suis vu reprocher d'être qui je suis. Ces épisodes, et encore plus le dernier en date, ont été marqués par de la violence verbale, des menaces physiques, allant jusqu'à la menace de mort, et aux insultes homophobes et racistes. Le blanc quitte ma ville, on est chez nous ici. C'est ce que je me suis entendu dire avant qu'on ne me poursuive jusque devant mon domicile pour me menacer de mort ensuite. Oui, les citoyens d'origine européenne peuvent faire l'objet de racisme. Et c'est un homme dont tout le parcours politique s'inscrit à gauche qui vous le dit.
Qu'est-ce que ça dit de notre société, Geoffroy Lejeune?
Moi, je trouve ça atroce, en fait, d'écouter, d'entendre ces mots. Je trouve ça vraiment épouvantable. Et en même temps, ce que je trouve encore plus épouvantable, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Et encore, on en parle. Vous en parlez, vous, ici, à CNews. Mais les autres médias se sont assez peu jetés sur le sujet, quoi. En fait, je pense que c'est ce que vivent ou ce qu'ont vécu des millions de Français. Et en réalité, je pense que cette affaire, au-delà du cas personnel de cet adjoint au maire des Mureaux, doit nous permettre de mettre le doigt sur le fait qu'en réalité, ce type de ville, ce type de quartier ont été désertés depuis 30 ans par des millions de gens qui ne se sentaient plus chez eux, des millions de Français de souche, comme on ne peut plus dire, des millions de Juifs aussi, qui ont quitté en fait ce genre de quartier parce qu'ils n'étaient plus chez eux, parce qu'ils étaient menacés exactement de la même manière. Vous vous rendez compte, 11 agressions en 2 ans, qui peut subir, qui peut supporter ça? Donc je trouve ça atroce. Et il y a une autre chose qui me chagrine un peu, c'est que, en réalité, j'ai le sentiment que ce diagnostic, il est posé par beaucoup de monde. Si on regarde ne serait-ce que l'augmentation des scores du Rassemblement National, je pense que ce sont des gens qui sont soit sensibles à ça, soit qui l'ont vécu. Ils n'ont pas forcément tous vécu, mais au moins ils ont cette forme d'appréhension du problème. Et puis, enfin bref, c'est pas uniquement l'apanage du Front National, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Et en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui vient du PS qui nous le dise pour qu'on l'écoute enfin. En réalité, ce discours-là, on l'entend très souvent. Il suffit d'aller d'ailleurs faire des reportages dans ces quartiers. Jean-Marc Morandini, ici, sur CNews, le fait régulièrement. Et il entend la même chose. Il était à Nantes hier et c'est exactement...
Mais sauf qu'à Nantes, pardonnez-moi de vous couper, Geoffroy Lejeune, à Nantes, il a justement alerté sur le phénomène d'insécurité, ce lien qu'on pouvait faire entre une partie de l'immigration et l'insécurité devant le premier adjoint à la mairie de Nantes, ouais. Qui lui disait cet amalgame-là est honteux de parler d'immigration et
donc, cet adjoint en question était ridicule et son discours était consternant. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il donnait la parole aux habitants et les habitants disaient, moi maintenant, certains, ça m'a beaucoup frappé, on est à Nantes, hein, disaient, moi je pars le week-end, je vais à la campagne, je vais déménager, je vais quitter Nantes, on n'est pas au Mureaux, on n'est pas dans Seine-Saint-Denis, pour les mêmes raisons en réalité. Donc c'est un phénomène global qui touche en fait beaucoup de territoires en France et donc en fait c'est tragique pour ce monsieur, mais en fait c'est une très bonne nouvelle qu'on ait ça sous les yeux pour pouvoir enfin en tirer des conclusions.
Julien Drey.
Ce qui est terrible, c'est que c'est un élu.
Oui.
Donc c'était quelqu'un qui est engagé, qui sait les problèmes auxquels il va être confronté et qui, d'un certain point de vue, dit « j'en peux plus ». J'ai essayé, je me suis battu et à un moment donné, j'ai le sentiment d'être tout seul. C'est ça, je crois, ce qu'il veut dire par là. C'est-à-dire qu'il n'a pas le sentiment que derrière, il a été accompagné, pas forcément par l'équipe municipale, ça j'en sais rien, mais en tous les cas par l'ensemble des autorités. Parce que normalement, c'est pas lui qui doit partir, c'est les voyous.
Ouais.
Normalement, c'est ceux qui l'ont menacé qui doivent être arrêtés et sanctionnés. Et cette fatalité qui s'installe maintenant et qui est effectivement la continuité. Mais je pense qu'on est ces derniers mois, on a franchi une nouvelle étape. Il y a malheureusement, on s'enfonce toujours un peu plus.
Ouais.
On franchit une nouvelle étape où un certain nombre de bandes maintenant se croient tout permis et pensent qu'elles sont désormais totalement maître des territoires. Il y a un film qui, en ce moment, circule sur Netflix.
Ah oui. Qui est, Athéna.
Voilà. Qui est très difficile. Très, très difficile. Très violent à regarder. Et donc, mais qui donne une image tellement terrifiante de la situation que je m'attendais à ce qu'il y ait un débat dessus.
Oh bah, on peut avoir, le débat qu'on peut avoir, c'est que Athéna était certes un très bon film, mais que quand Bac Nord est sorti, beaucoup ont considéré qu'il était stigmatisant contre la police, que c'était d'extrême droite, que c'était un scandale.
Athéna, je suis pas fait beaucoup plus loin, parce que c'est vraiment une situation de guerre civile qui est installée, avec une scénographie. Par ailleurs, est assez intrigante parce qu'effectivement, c'est joli, etc. C'est mise en scène, quoi, je dirais. La musique, tout ce que vous voulez. Ça veut dire quand même que dans cette société, on est en train d'accepter, finalement, ce partage territorial.
Gérard Leclerc, un dernier mot avant la publicité là-dessus. Et encore une fois, ce qui est aussi, et c'est triste de le dire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un élu du socialiste qui tient ces propos-là, parce que je mets ma main à couper que si on avait enlevé PS, on aurait mis Reconquête, RN ou même Républicain, on aurait eu un débat autour de ce plateau en disant mais attendez, c'est stigmatisant, c'est presque raciste ce que est en train de dire cet élu qui a quitté son territoire et c'est excessif.
C'est bien évidemment consternant d'une part parce que c'est une parmi beaucoup d'autres d'agressions d'élus, ce qui est totalement insupportable. Les élus sont les représentants du peuple, sont des élus, pas comme leur nom l'indique, et donc on ne doit bien évidemment pas, on doit les respecter. La deuxième chose, c'est qu'il met le point sur une réalité que malheureusement, c'est vrai, la gauche, à mon avis, ne regarde pas suffisamment de face, qui est celle de la constitution de ghetto. Qui existent et
la transformation de la société.
C'est pas toute la société.
Vous avez un élu blanc homosexuel à qui on dit toi le blanc quitte ma ville, on est chez nous.
Mais parce que
donc pardonnez-moi, c'est pas que des ghettos.
Non. On est parce que dans cette ville des Mureaux, je demande à vérifier.
Oui.
Et vous avez effectivement une concentration de gens qui sont d'origine étrangère, qui sont d'une autre.
C'est une ville qui s'est transformée, qui n'est plus la même.
Transformée, oui, mais.
Qui n'a plus les mêmes codes, qui n'a plus les mêmes personnes
dans la ville. Parce que, à cause de ça. Parce que vous n'avez plus.
De mixité.
Fameuse de mixité, effectivement.
Voilà le résultat. On va parler de
la. Le seul problème, c'est qu'en France, personne s'en occupe vraiment, et en tout cas pas la gauche, contrairement à d'autres pays où même la gauche, par exemple au Danemark, ont cassé ces ghettos.
Je me permets de vous couper, Gérard, et je vous remercie. Merci beaucoup, Gérard Leclerc.
Juste faire remarquer que je veux bien qu'on fasse le procès de la gauche parce que c'est
jamais
ça devient récurrent pour certains, mais pour l'instant c'est pas la gauche qui gouverne le pays. Hein.
Oh.
Non, c'est pas la gauche.
Non, c'est l'extrême centre.
Non.
C'est l'extrême centre.
Mais en tout cas, il me semble-t-il aujourd'hui, le centre de gravité est plus de votre côté que du mien.
Ah non, pas du tout. D'accord, je suis pas d'accord.
On verra sur la base. Non, mais on est obligé. La publicité.
Ce que je veux dire par là, c'est que on a eu une faillite politique ces derniers mois. On a eu la même chose que ce qu'a été le sarkozysme, c'est-à-dire des menaces, mais pas d'actes.
La publicité, on revient dans un instant. Merci Gérard Leclerc. La deuxième mi-temps, c'est dans quelques minutes.
Nous, on parle.
La deuxième partie de Ça se dispute, toujours avec Julien Drey et Geoffroy Lejeune. On fait le point sur l'information et on continue le débat dans un instant.
Les clients se ruent dans les magasins pour le dernier jour de Camaïeu. 38 ans après sa création, l'entreprise de prêt-à-porter disparaît officiellement aujourd'hui. Elle a été placée en liquidation judiciaire mercredi. Plus de 500 magasins vont donc fermer et 2600 emplois seront supprimés. La Floride, dévastée après le passage de l'ouragan Ian, au moins 23 morts, la plupart par noyade et dans leur grande majorité des personnes âgées. Un coût humain mais aussi matériel, selon les premières estimations, le sinistre pourrait coûter aux assureurs jusqu'à 47 milliards de dollars. Une nouvelle grève massive des cheminots face à l'inflation au Royaume-Uni. Les Britanniques font face à une inflation de près de 10% et s'inquiètent de savoir s'ils pourront se chauffer ou payer leur prêt immobilier cet hiver. Seuls 11% des trains ont circulé dans le pays avec de nombreuses régions sans aucun service.
Voilà pour le point sur l'information. Ce que je vais vous proposer, ce n'est pas un son du jour, une information, mais un échange qui s'est déroulé sur ce plateau, dans l'heure des pros, entre Jenny Bastier et Alain Jakubowicz, et qui est révélateur peut-être d'une situation, c'est-à-dire la difficulté d'assimilation. Et c'était dans un contexte où Alain Jakubowicz expliquait que, en tant qu'avocat, il recevait énormément d'appels de jeunes avocates, mais qui demandaient à plaider voilé. Et lui, il expliquait que les avocats ont une robe et qu'ils refusent qu'aujourd'hui ou demain, les avocates plaident voilées. Et qu'il explique que c'est une vague d'appels et de nouvelles avocates qui veulent ça. Ça rejoint aussi l'information du jour, c'est-à-dire que vous avez des signalements, et on le traitait déjà la semaine dernière, à l'école, les signalements sur ces atteintes à la laïcité. On est dans une société où, justement, vous n'avez plus cette assimilation et cette confrontation entre nos valeurs, nos mœurs, notre histoire et cette nouvelle vision. Regardez cet échange.
Venir me dire à moi que je suis islamophobe, que je suis raciste, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre tous les racismes, toutes les discriminations, et venir me dire ce chantage à l'islamophobie est tout simplement insupportable.
Une de lecture. Vous avez aussi à installer ce climat-là, je suis désolée, en étant à la LICRA,
mais pas du tout.
Sur les racismes. Si, parce que vous avez détruit l'assimilation à la française en disant que finalement l'assimilation c'était mal.
Mais
parce que parce que ça, c'était une violence envers les immigrés. Et le résultat, c'est quoi? C'est le communautarisme. Donc vous avez une part de responsabilité.
Est-ce que vous admettez ça?
Non, mais vous êtes peut-être trompé.
Non, mais ça, c'est un sujet vraiment intéressant.
Je n'admets pas parce que ça a toujours été.
Comme l'a très bien dit Paul Lyonnais dans son livre Voyage au cœur du malaise français.
Notre combat a toujours été inverse.
Et qui montre que SOS Racisme avait une chose.
Elle vous aura pas échappé que je n'ai jamais été président de SOS Racisme et de la LICRA, qui est une association universaliste. Universaliste. Et vous voyez, on a une divergence de fond. On a une divergence de fond entre la France assimilationniste et la France intégrationniste.
Non, mais ça, c'est,
là, mais non,
ça,
non,
c'est
non, oiseux, non. Mais nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Vous avez détruit l'assimilation.
Nous ne sommes pas d'accord sur ce point.
Et le résultat, c'est le communautaire.
Mais alors, venir nous dire à nous que nous serions responsables de cette situation que nous avons combattue depuis toujours.
Alain. Je trouve formidable.
C'est aussi terrible que de me dire aujourd'hui que je suis raciste.
Alain, soyons. L'esprit dans lequel est intervenu Eugénie n'est évidemment pas polémique. C'est vraiment. Pas du tout, pas
non,
du
non,
tout.
Je
trouve que c'est vraiment un débat de fond.
Je pense que si.
Non, mais elle ne cherche pas à régler des comptes. Je trouve qu'elle dit un truc qui est passionnant parce que vous-même, au nom peut-être d'idées qui étaient tout à fait intéressantes et sans doute louables, peut-être que vous avez mis le doigt dans un engrenage que vous n'avez plus.
Peut-être.
Et il dit peut-être à la fin de cette séquence, Julien Drey, quel regard vous portez sur cet échange?
Si vous me permettez, j'ai déjà expliqué à Eugénie Bastier, mais je ne lui reproche pas. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc elle connaît une partie de l'histoire, mais elle ne connaît pas toute l'histoire. Quand nous avons créé SOS Racisme, et vous pouvez retrouver, je vais venir avec tous les documents, nous l'avons créé contre ceux qui prenaient le droit à la différence. Nous l'avons créé pour le droit à la ressemblance. Et le droit à la ressemblance, c'était l'intégration-assimilation. Vous avez des dizaines de textes que nous avons écrits, que nous avons défendus dans les débats. Regardez l'émission, si vous avez le temps, un jour, d'Harlem Désir de 1987, qui est de date de fin août 1987, qui avait fait d'ailleurs un score formidable. Et il défendait à l'époque, justement, ce droit à l'intégration et à l'assimilation. Et il expliquait très bien d'ailleurs, avec cette fameuse référence qu'il avait fait sur les cages d'escalier, que si on ne s'occupait pas des cages d'escalier, si on ne s'occupait pas de justement de permettre aux gens de bien vivre ensemble, alors ça allait finir en ghetto. Donc le problème, c'est que Eugénie Bastier, elle ne veut pas s'en prendre à ses propres amis. C'est-à-dire ceux, et une partie aussi des miens d'ailleurs. Moi, je l'assume, mais elle ne veut pas assumer ce passage-là. Moi, j'assume que les miens n'ont pas fait le travail qu'il fallait au gouvernement pour casser ces ghettos-là. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas cassé le ghetto, mais vous les avez renforcés, vous avez développé le communautarisme, et donc vous avez mis en cause le modèle assimilationniste français. Mais venir aujourd'hui exempter ceux qui ont exercé le pouvoir, qui avaient les moyens de le faire, et s'en prendre à des associations qui, par ailleurs, aujourd'hui, n'ont pas la force qu'elles avaient auparavant.
Oui.
Et par ailleurs, le faire
à la LICRA. Vous avez une part de responsabilité en parlant de
Jacques Boris. À ce moment-là, si vous voulez, je veux bien, tout le monde a une part de responsabilité.
Bien sûr.
Mais ceux qui ont une part de responsabilité,
ça,
d'abord, d'après moi, sont ceux qui dirigent le pays, qui ont conscience des problèmes et qui ne font pas ce qu'il faut faire.
Et ça s'entend également.
Non, mais personne ne dirait l'inverse. Julien Drey, le problème, il est politique. Mais maintenant, je vais vous répondre en vous disant juste, moi, je connais SOS Racisme aujourd'hui.
C'est-à-dire que vous ne l'avez pas connu quand j'y étais parce que vous étiez trop jeune. Et on vous reproche pas.
Et donc, en fait, je vais même pas vous faire de procès sur SOS Racisme.
Non, mais c'est pas grave. Je ne détiens pas la vérité. Je vais plus me tromper comme beaucoup de gens.
C'est même pas ce que je vais même pas vous demander de dire que vous êtes trompé, etc. C'est pas le sujet. Tout ça, c'est une querelle quasiment d'historien à l'heure où on parle. Mais je mets pas en cause vos intentions de l'époque. Je vais juste vous dire ce qui est devenu SOS Racisme parce que je le connais, je l'ai vécu, j'allais dire dans ma chair, encore la semaine dernière. C'est-à-dire que j'étais au tribunal, moi, pour défendre mon journal Valeurs Actuelles, dans un procès qui nous est intenté par Madame Obono pour une fiction qu'elle a qualifiée de raciste. Et donc on était en appel au tribunal de Paris contre elle. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne reproche pas à Mme Obono de nous avoir attaqués. Elle, c'est son droit, on l'a attaquée, elle nous attaque, on se défend, etc. Il y a, et ça vous le savez très bien, des parties civiles au procès qui se constituent elles-mêmes parties civiles, dont SOS Racisme, mais d'autres associations aussi qui sont complètement inconnues. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, le fonds de commerce de ces associations aujourd'hui, c'est ça. C'est vous avez des procès où on accuse des gens de racisme, elles se constituent parties civiles, elles viennent, elles demandent des dommages et intérêts, et elles vivent des condamnations de gens, comme peut-être moi si je suis condamné, je ne sais pas encore, la réponse ce sera en novembre, elles vivent des amendes qui sont infligées à des gens, et pas du tout d'ailleurs, ni de leurs adhésions, ni de leurs dons, etc., parce qu'elles ne représentent personne, mais elles ont installé et elles entretiennent un climat de terreur judiciaire, en réalité. Et maintenant, je vais vous raconter juste comment ça se passe à l'audience. À l'audience, vous avez Madame Obono, qui est donc la plaignante, qui vient expliquer ce pourquoi elle a été choquée, etc., etc. Moi, qui explique pourquoi je pense que c'est pas choquant, pourquoi on a eu le droit de le faire, raison de le faire, et compagnie. Et vous avez, par-dessus ça, des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire, donc SOS Racisme, qui viennent, et je pèse mes mots, les avocats d'SOS Racisme sont des racailles de tribunal. Ils viennent, ils insultent littéralement les prévenus, en l'occurrence moi, ils nous traitent de nazis, ils nous traitent du Ku Klux Klan, mais Julien, je l'ai vécu la semaine dernière, je l'ai vécu en juin dernier, enfin il y a un an et demi, il y a un peu plus d'un an, c'est, mais insupportable. S'il y avait des caméras et des débats loyaux, entre guillemets, avec ces gens-là, ils ne tiendraient pas cinq minutes face à nous.
Je me permets, Geoffroy, parce que je peux comprendre et votre colère, et je peux l'entendre, etc., mais pour peut-être ne pas répondre à l'insulte, c'est-à-dire que quand vous dites que les avocats de ce racisme sont des racailles, évitons de tenir ces propos-là. Attendez. En tout cas, ça vous appartient, mais, non, mais modérateur que je suis,
vous avez raison, vous avez raison de modérer, mais en fait, j'ai pas besoin d'être modéré parce que je maintiens ça. Ce sont des racailles de tribunaux. Et attendez, je termine en vous disant première instance, Julien, pardon, je finis juste avec ça. On a l'avocat des SOS Racisme qui est venu nous expliquer, qui a regardé la salle dans laquelle il y avait une partie de la rédaction de Valeurs Actuelles et des soutiens de Madame Obono, qui a déploré, qui a dit, quand même, vous vous rendez compte, Valeurs Actuelles, vous n'êtes que des blancs, c'est terrible, il y a que des blancs dans la salle. En fait, c'est très intéressant parce que la boucle était bouclé. Ces gens se fichent complètement du racisme potentiel dans la société. Ils sont là pour faire... ils ont commencé à lancer un combat racialiste et aujourd'hui, ils sont à la remorque de ce combat parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, les masses sont de ce côté-là, les masses notamment des gens issus de l'immigration, etc. Et donc, ils mènent combat délétère.
Laissez la parole à Julien.
Pardon, je vous laisse parler.
Julien,
alors, il y a trois choses différentes. Je n'étais pas au procès, je ne sais pas ce que vous dites. Je suppose que SOS Racisme réagira, les connaissant, à ce que vous avez dit et que ça va avoir des suites. Mais bon, ça fait partie du conflit que vous avez avec l'association. Je maintiens par ailleurs que j'étais très choqué par la une que vous avez faite sur Madame Obono.
C'est pas une une, mais oui.
Bon, j'écarte un peu, mais bon.
Bon, mais je voilà. Mais après, c'est autre chose. Mais le débat, il n'est pas là. Parce que c'est pas ça, le débat. Le débat, c'est que, et je dis Bastier, dit, tout ça, c'est la faute aux associations, à SOS Racisme, etc. Là, vous me parlez d'une situation actuelle. Moi, je vous parle de comment les choses ont évolué.
Elle n'a pas dit ça.
Si, elle dit...
Elle a dit, vous avez une part de responsabilité.
Non. Regardez bien les mots. Elle dit tout ça. Elle l'a écrit, d'ailleurs. Elle l'assume. Mmh. Elle dit tout ça, c'est la faute aux associations qui ont créé le climat, etc., etc. Donc, moi, je vous parle de quelque chose qui s'est passé dans les années 80, oui, 80 alors, 90. Dans les années 80-90, le procès que fait Eugénie Bastier, parce que ça, j'assume, j'en avais la responsabilité, j'assume, elle se trompe, je lui ai donné des milliers d'exemples de ça. Je peux même vous dire une chose, les différentialistes nous détestaient. Voilà, il y avait toute une série d'associations qui étaient des associations qui prenaient le droit à la différence, nous détestaient. Je vais vous rappeler les choses, elles nous ont même accusés d'avoir confisqué la lutte des cités au profit des lobbies et notamment du lobby sioniste, etc. Donc moi, je veux bien qu'on fasse le procès de SOS Racisme. Le problème est le suivant, je l'ai vécu moi-même, c'est que à partir de 88, quand la gauche gagne, elle n'est pas au rendez-vous de ce qui était l'engagement qui avait été pris, y compris par le président François Mitterrand, de casser les ghettos. C'est là que ça commence à dégénérer. Et la deuxième erreur, elle est faite pour la gauche, vous voyez, moi j'assume, elle est faite en 97, quand la gauche a l'illusion que parce que le plein emploi va revenir, eh bien, les choses vont se calmer dans les cités et ça ne se passe pas comme ça et ça dégénère. Donc la gauche, elle a des responsabilités. Mais dire tout ça, c'est la faute aux associations, c'est elles qui ont créé le climat, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que c'est passé. Et c'est une facilité.
Bon. Alors, un dernier mot avec vous et après, je veux qu'on avance parce qu'on doit parler et de l'Union des droites et de l'Iran.
On pourrait parler de ça pendant des heures, mais.
Je sais.
Je comprends, en fait, je comprends.
On peut faire une spéciale là-dessus.
Oui.
Mais franchement.
J'ai trouvé que cet échange, et je l'ai dit dès le début, c'est-à-dire qu'on fait un pas de côté. Volontairement. Mais cet échange entre Jeanne Bastier et Alain...
Je vais aller fouiller dans mes archives.
Était fascinant, forcément. Et je voulais vraiment avoir votre avis, Julien, sans que ce soit évidemment un procès d'intention.
Alors, je vais parler, mais je pense que Julien voudra répondre. Mais
alors on fera pas l'air, attention.
Je comprends, pardon, moi ça me passionne. Je comprends vos intentions de l'époque. Je crois à votre bonne foi quand vous les expliquez aujourd'hui. Mais vous pouvez pas nier que les conséquences sont celles qu'on vit aujourd'hui.
Mais c'est pas la faute de SOS Racisme. Les conséquences, je suis d'accord à vous. J'ai été un des premiers à dire en 1993, vous voyez, c'était tôt, dans un rapport parlementaire, il y a une dérive dans les banlieues, une dérive, j'ai employé l'expression de dérive mafieuse des banlieues.
Mais attendez,
je peux vous dire, en 1993. Donc, ça, et d'ailleurs, on me l'avait reproché, on m'a dit, comment toi, le fondateur de SOS Racisme, tu peux parler de ces choses-là?
C'est
pas la faute de SOS.
Je connais votre lucidité là-dessus. Moi, je vous dis juste, en fait, SOS, c'est peut-être que c'était pas la vocation à l'origine, mais vous êtes aujourd'hui, enfin, vous, pas vous, mais SOS Racisme est aujourd'hui main dans la main avec les fameux différentialistes dont vous dites qu'ils vous ont combattu au début. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est juste, pardon, mais il faut rappeler aussi un peu le contexte de l'époque, dans les années 80, etc., avec Mitterrand au pouvoir. En fait, Mitterrand a inventé deux choses
qui a aujourd'hui des conséquences qui sont gravissimes, c'est premièrement le Front National, deuxièmement le SOS Racisme. C'est-à-dire que...
Non, il n'a pas inventé le SOS Racisme, ça je peux vous dire. Ça, c'est des choses qu'on a écrites, il l'a pas inventé. D'ailleurs, je ne lui autorise pas à pouvoir le dire, puisque je revendique cette invention.
Non, mais on devait faire vraiment 3 minutes, mais comme ça vous intéressait tous les deux, on en a fait un peu plus long. Bon. Je veux qu'on termine sur l'union des droites.
Spéciale,
malheureusement, et promis demain, on fera l'Iran, puisque en plus vous êtes là tous les deux. Donc on parlera de l'Iran demain. Je le dis dans exactement 10 minutes, il y aura face à Bock-Côté, Mathieu Bock-Côté, et Marion Maréchal sera l'invité de Mathieu Bock-Côté dans quelques instants, donc restez avec nous. Mais avant cela, on va justement parler de l'union des droites, puisque Nicolas Dupont-Aignan... Comment ?
Vous pouvez faire la nuit blanche aussi.
Bah, la nuit blanche, oui, mais alors ce sera un peu plus tard. Un peu plus tard. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a fait sa rentrée politique. Je rappelle quand même que Nicolas Dupont-Aignan a fait un peu plus de 2% à l'élection présidentielle. Ça représente 700 000 personnes qui ont voté à cette élection pour Nicolas Dupont-Aignan. Et pour lui, c'est l'alliance de la dernière chance. Et cette alliance de la dernière chance, c'est à droite. Il considère que sur les questions régaliennes, il n'y a pas une feuille de papier qui sépare Reconquête de LR et du Rassemblement National. On l'écoute.
Il ne s'agit pas de revenir sur les responsabilités partagées des uns ou des autres, sur les mots qui ont blessé, mais de dépasser tout cela pour demander droit dans les yeux, l'union des républicains, des souverainistes, des patriotes, l'alliance de la dernière chance pour la France. Alors oui, Jean Lassalle, Florian Philippot, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Michel Onfray, Rachida Dati, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, tant d'autres. Oui, je m'adresse à vous, vous qui avez la passion de la France. Franchement, droit dans les yeux, il y a moins de différence entre nous tous qu'entre Silvio Berlusconi, Matteo Salvini ou Giorgia Meloni. La seule différence, c'est qu'elle a gagné et que nous avons perdu.
Julien Drey.
Oh, il est, moi, je connais bien Nicolas Dupont-Aignan, puisque c'est un élu essonien. Donc, il est dans une trajectoire politique qui est continue. Il a toujours prôné ce qu'il est en train de dire. Ce qu'on voit, ce qu'on est en train d'assister là depuis quelques semaines, c'est une xième tentative du mouvement d'Éric Zemmour pour essayer de se remettre en selle en disant, en adressant les multiples suppliques possibles, imaginables à Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen va leur faire la démonstration que sans eux, elle a avancé, et qu'au contraire, d'un certain point de vue, c'est grâce au fait qu'elle a su s'émanciper d'eux qu'elle a pu prendre la place qu'elle a prise. Après, deuxièmement, si vous me permettez, je pense que les Français, comme d'habitude, regardent leur nombril. Parce que l'Italie, c'est beaucoup plus compliqué ce qui s'est passé, y compris, vous allez voir, la répartition des sièges. Nous n'avons pas un triomphe de l'extrême droite en Italie. La vérité, c'est que le grand perdant en Italie, le premier grand perdant, c'est M. Salvini, qui est passé à moins de 8%. Voilà, c'est lui. Et Mme Meloni, habilement, lui a siphonné ses voix. Voilà. Il y a un deuxième perdant, c'est le Parti démocrate, qui a perdu 8%, qui était à 19% alors qu'il était à 28%. Donc voilà. Donc la situation en Italie, elle est très différente. Et regarde, comme les observateurs n'ont pas regardé, la campagne de Mme Meloni, elle était très famille, c'est vrai. Elle était très
chrétienne.
Elle était très chrétienne, etc. et tout. Mais elle n'était pas du tout ce que vous croyez. C'est-à-dire, c'était pas l'extrême droite. Hein. Et elle a fait tout.
La bien-pensance va vous attaquer, Julien.
Non, mais peut-être la bien-pensance.
Vous allez finir dans des émissions. Mais
j'ai dit dimanche dernier, quand j'ai vu tout le monde se précipiter, oui, en disant c'est la victoire des chemises brunes, c'est le fascisme, etc. J'ai dit vous trompez, vous avez rien compris du tout à ce qui va se passer. D'ailleurs, vous savez, les Italiens, ils sont pas sortis d'affaires. Oui. Il va falloir faire une coalition, et il est même pas sûr que la coalition va marcher.
Par contre, vous êtes très fort parce que vous passez à côté du sujet. Moi, ce que je veux savoir, c'est si ce que dit Nicolas Dupont-Aignan est juste. C'est-à-dire qu'à droite, en France, on est plus proche sur les questions régaliennes qu'en Italie. C'est-à-dire
mais non, parce que Marine Le Pen, elle a fait intelligemment une campagne sur les questions sociales. Et c'est ça
mais Marine Le Pen, avec les Républicains et avec le Rassemblement, avec Reconquête, peut-être que Marine Le Pen serait présidente.
Si ma tante.
La réponse, 20 secondes. Si ma tante.
J'ai 20 secondes, ok. Il y avait aussi l'immigration dans le programme de Meloni, quand même. Il ne faut pas oublier.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Même énormément.
Et qui ne se pose pas de la même manière en Italie qu'en France.
Je sais. Je pense qu'il a raison, que Dupont-Aignan a raison. C'est-à-dire que sur le diagnostic, ils sont tous d'accord. Sur les sujets essentiels qui sont les marqueurs de la droite, ils sont tous d'accord. Maintenant, on sait qu'ils ne s'allient pas, qu'ils ne réussissent pas à s'allier parce qu'il y a des problèmes d'ego, parce qu'il y a des différences, etc. Mais par contre, Julien Drey, vous aimeriez que Marine Le Pen soit devenue devenue la candidate du social, mais la réalité, c'est que les électeurs de Marine Le Pen continuent à voter pour le Rassemblement National, aussi pour les questions d'immigration.
Alors à ce moment-là, pourquoi ils n'ont pas voté pour Reconquête, qui a fait toute sa campagne
là-dessus ? Parce qu'il y avait le RN. Et parce qu'il y avait le RN.
D'accord, mais,
non, mais ce que je veux dire, c'est que
pourquoi
ce que je vous dis, c'est
il y a une contradiction. Excusez-moi, on poursuivra ça peut-être demain.
Oui.
Mais il y a une contradiction, puisque justement Éric Zemmour avait misé tout là-dessus.
Oui,
et mais il n'a pas réussi.
Je sais bien, mais parce que en fait, quand vous regardez, même Pécresse disait la même chose que Zemmour sur l'immigration.
C'est pour ça qu'elle s'est
trompée. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit sur les questions régaliennes, pas les questions sociales.
Mais je vous donne raison, et j'avais raison à Dupont-Aignan. Pécresse, Zemmour, Dupont-Aignan et Marine Le Pen
les
disaient la même chose.
Sécurité. Non, parce que
la vérité,
c'est fini.
1 + 1 + 1 ne fera pas 4.
Ça, c'est vrai, non. C'est autre chose.
Et 0 + 0 égale
la tête à Toto.
Vous l'aviez dit l'année dernière.
Vous avez souvenir de ça.
Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, c'est Mathieu Bock-Côté qui reçoit donc Marion Maréchal avec Julien de Kerenfleck également. Et nous, on se retrouve à 21h pour Soir Info Week-end.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.